Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les titres de ce jeudi 30 octobre, de nouvelles lois environnementales présentées au Parlement australien, lancement du sommet de l'APEC en Corée du Sud, Anthony Albanese est sur place. Au Soudan, le chef des paramilitaires reconnaît une catastrophe à El Fasher, l'ouragan Melissa quitte Cuba ayant fait au moins 20 morts en Haïti, il se dirige vers les Bahamas. Et enfin, le journal des sports à la fin de cette émission, c'est avec Jean-Noël Ducasse. Le gouvernement fédéral australien a présenté aujourd'hui sa réforme très attendue des lois nationales sur l'environnement, offrant pour la première fois un aperçu complet d'un projet de loi de plus de 1500 pages. Alors que le ministre de l'Environnement, Murray Watt, s'exprimait aujourd'hui au National Press Club, le texte a été formellement déposé au Parlement par le ministre de l'Intérieur, Tony Burke.
The truth is, our environment laws are broken. They're not working for the environment, for business, for the economy, or for the community. That was a clear assessment delivered by Professor Graham Samuel when he handed down his independent review of the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act.
Les Verts estiment que le texte ne va pas assez loin pour protéger les espèces menacées, tandis que la coalition juge que certaines dispositions, notamment celles portant sur les impacts jugés inacceptables sur l'environnement, mettent les entreprises en danger. Dans le territoire du Nord, plusieurs conseils fonciers autochtones ont eux aussi fait part de leurs inquiétudes, dénonçant un manque de consultation avec les peuples aborigènes. Et enfin, le directeur général par intérim de la Fondation australienne pour la conservation, Paul Sinclair, affirme que le texte comporte encore d'importantes failles juridiques.
As they stand, these bills fail nature and the jobs that depend on them. About half the Australian economy, about $900 billion a year, is directly dependent upon nature. A strong nature law creates a strong Australia. These laws need to be strengthened to end deforestation. As they stand, these laws have too many loopholes.
La pression qui continue de monter autour du gouvernement australien, l'opposition pointe du doigt l'exécutif alors que l'espoir d'un allègement des taux d'intérêt s'amenuise. Les ménages détenteurs de prêts immobiliers ont reçu une bien mauvaise nouvelle, l'inflation repart à la hausse. Hier, le Bureau australien des statistiques a révélé que l'inflation sous-jacente a grimpé à 3% sur un an jusqu'en septembre contre 2,7% en juin. La sénatrice nationale Bridget McKenzie déclare qu'il s'agit là de la plus forte hausse des chiffres de l'inflation depuis plus de 2 ans.
There is no rate relief in sight for Australian households while our trillion-dollar treasurer is in charge. The Reserve Bank governor has been warning about the debt levels and the uncontrolled spending of the Labor government for a long time. And now we are seeing this play out in rate relief not being delivered.
De son côté, Anthony Albanese est arrivé en Corée du Sud pour participer, on le disait en titre, au sommet de l'APEC, le Forum annuel de coopération économique Asie-Pacifique. En marge de cette rencontre, le Premier ministre s'est rendu sur les tombes de guerre à Séoul pour honorer la mémoire des 281 Australiens tombés pendant la guerre de Corée et saluer le courage des quelques 17 000 hommes et femmes australiens qui ont combattu sur le front. Il a déclaré qu'il entendait défendre au mieux les intérêts nationaux de l'Australie en renforçant les liens avec les nations membres de l'APEC. On l'écoute.
One in four of Australian jobs depends upon trade, and 75% of Australia's trade is with APEC nations. This is the fastest growing region of the world in human history, and this week will be an opportunity for me to advance Australia's national interest.
De nouveaux bombardements de l'État hébreu dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a visé un entrepôt d'armes dans le nord de l'enclave. Israël avait pourtant annoncé le retour du cessez-le-feu après les frappes qui ont fait plus de 100 morts la nuit dernière. 46 enfants, 20 femmes parmi les victimes. Des bombardements fermement condamnés par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. De son côté, Donald Trump, dans un avion direction Séoul, a rassuré les journalistes, assurant que la paix au Moyen-Orient n'était pas menacée. Écoutez son argument.
Thank you. Nothing's going to jeopardize. That's, you have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East. And they have to behave. They're on the rough side. But they said they would be good. And if they're good, they're going to be happy. And if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated. And they understand that.
Le président américain est donc arrivé en Corée du Sud, à Séoul, aux côtés d'Anthony Albanese, à l'APEC donc. Donald Trump qui doit d'ailleurs rencontrer son homologue chinois aujourd'hui, mais pas de rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Donald Trump évoque un problème de timing. Au-delà de ces rencontres, un vaste accord commercial a été signé entre Washington et Séoul, capitale donc de la Corée du Sud. Il prévoit notamment de réduire les droits de douane automobiles en échange d'un plan d'investissement sud-coréen aux États-Unis. Mais en marge de cet événement, de nombreuses personnes ont manifesté contre la présence de Donald Trump. À Séoul, la correspondance de Celio Fioretti pour Radio France Internationale.
La présence de Donald Trump au sommet de l'APEC irrite les dizaines de manifestants s'étant rassemblés à Gyeongju. Hongmongyo, l'un d'entre eux, dénonce l'accaparement de l'attention par Donald Trump, qui ne participe pourtant pas au sommet dans son intégralité et évite les deux principales journées de discussion en fin de semaine.
Le sommet de l'APEC 2025 à Gyeongju commence et se termine comme une fête de Trump. Bien qu'il soit censé traiter de nombreux sujets, toutes les attentions sont accaparées par les guerres économiques et tarifaires de Trump. L'APEC risque de devenir le one-man show de Trump.
Les manifestants sont également venus dénoncer l'attitude jugée dangereuse du président américain sur la scène internationale, comme l'explique Kim Jong-min, un autre manifestant.
Nous ne pouvons pas rester silencieux face à un Trump qui impose ses vues selon son bon plaisir. Nous condamnons Trump, destructeur de la démocratie. Sa guerre économique ne se limite pas à la concurrence, elle nourrit ouvertement la menace de guerre.
Si un accord commercial a aujourd'hui été trouvé entre la Corée du Sud et les États-Unis, les enjeux commerciaux imposés par Donald Trump restent au cœur des discussions à venir lors de ce sommet de l'APEC.
Au Soudan, le chef des paramilitaires reconnaît une catastrophe à El Fasher après le décès de centaines de personnes, on le disait en titre. Cette ville clé du Darfour a été prise dimanche par les paramilitaires. L'armée régulière accuse les FSR d'avoir exécuté plus de 2000 civils dimanche et lundi et plus de 460 personnes ont été tuées dans une maternité ces derniers jours. L'Organisation mondiale de la santé réclame un cessez-le-feu et Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, condamne ces violences.
Today we were horrified by reports of the tragic killings of more than 460 people, both patients and their companions, at the Saudi Maternity Hospital in El Fasher. This follows recent attacks and the abduction of health workers. Prior to this latest attack, our colleagues at WHO verified 185 attacks on healthcare in Sudan, with 1,204 deaths and 416 injuries of health workers and patients since the start of the conflict in April of 2023.
L'ONU qui annonce une enveloppe de 30 millions d'aides au Soudan alors que près de 40 000 personnes ont fui El Fasher. Les Caraïbes dévastées par Mélissa, l'ouragan quitte Cuba, direction les Bahamas. Les dégâts sont considérables, des vents à près de 300 km/h. En Haïti, au moins 20 personnes sont mortes, dont 10 enfants. Michael Brennan est le directeur du Centre national américain des ouragans. Il a tenu une conférence de presse.
Le dangereux ouragan Mélissa est en train de quitter la côte nord-est de Cuba et se déplace maintenant plus rapidement. Mais l'alerte est toujours en cours dans cette partie de l'île. De fortes pluies, de catastrophiques crues subites et des glissements de terrain sont à redouter. Il pleut toujours aussi énormément dans certaines zones de l'île d'Hispaniola et en Jamaïque. Le risque d'inondation reste donc très élevé dans l'ouest d'Haïti et en Jamaïque jusqu'à ce soir. Le vent souffle moins fort, mais la tempête a gagné en taille. La bonne nouvelle, c'est que la vitesse de Mélissa va continuer à augmenter. Les Bahamas commencent à être touchés, les gens doivent rester à l'abri. En fin de journée ou tôt demain matin, l'ouragan va s'éloigner des Bahamas. Demain soir ou vendredi, le centre de Mélissa passera à côté ou juste à l'ouest des Bermudes, où une alerte a déjà été lancée.
Voilà, Michael Brennan du Centre national américain des ouragans. En Jamaïque, c'est l'ouragan le plus puissant en 90 ans. 3 personnes sont décédées et leur Royaume-Uni va fournir à la Jamaïque une aide financière d'urgence de 2,5 millions de livres, soit l'équivalent de 5 millions de dollars australiens. Allez, c'est l'occasion de faire un point sur la météo ici en Australie. Il fait mauvais temps sur tout le pays, que ce soit des nuages ou des averses. Côté température, comptez 22 à Perth, 25 à Adelaide, 24 à Melbourne, 18 à Hobart, 22 à Canberra, 22 également à Sydney et après ça monte 27 à Brisbane, 33 à Cairns et 34 à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.